Allons dans les Écritures ensemble. Et avant de commencer la lecture, je vous rappelle où on est. Après ça, on va lire à partir du chapitre 15, verset 1. On parle de jugement. Et personne n'aime ça parler de jugement, n'est-ce pas? On n'aime pas ça parler de guerre. On n'aime pas parler de massacre, de combat. Et pourtant, Dieu mène un combat pour votre âme et mon âme, avec le bien et le mal, n'est-ce pas? Et il y a un combat spirituel et il y a inévitablement un combat ici sur terre, dans une rébellion contre Dieu depuis la création. Et donc, inévitablement, on doit passer à travers ces enseignements qui nous parlent de cela. On est ici au milieu de notre série. On ouvre maintenant on a ouvert la septième trompette qui, elle, inaugure les sept coupes qu'on va lire. Ça s'intensifie et là, c'est vraiment non seulement une intensification, mais vous allez voir, ça devient vraiment macabre de voir tout ce qui va se passer sur la planète comme souffrance, comme mort, comme douleur, comme cri, comme colère. Ça s'intensifie. Le Seigneur va arriver au bout de ce jugement-là. Et jusqu'au bout, quelqu'un peut se repentir. Et l'intensification veut mettre une pression sur l'humain de se tourner vers Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à s'entêter? On va voir dans nos versets qu'on va lire. Et donc, on s'intensifie. Et je vous rappelle qu'on est juste ici, donc, les sept coupes. On vient de regarder une scène au milieu de la tribulation. Il nous apparaît cette scène céleste qui nous donne beaucoup d'informations pour comprendre qu'est-ce qui vient de se passer, la première section qu'on vient de terminer, et qu'est-ce qui s'en vient. Et donc, par exemple, dans le chapitre 14, la semaine dernière, on a parlé d'une bataille, d'un jugement qui s'en vient, qui annonçait justement la bataille d'Armageddon. On va le voir un peu de détails de cela aujourd'hui, et on va voir le détail davantage la semaine prochaine de cette destruction de cette Babylone, qui n'est pas seulement symbolique, mais qui est bien réelle, d'un système économique, un système politique, un système religieux qui veut séduire le monde et l'éloigner de Dieu. Et donc, on est juste ici. La semaine prochaine, on va regarder la destruction de Babylone. Qu'est-ce que c'est exactement cela? On regarde ici le chapitre 16, ces sept coupes de jugement qui tombent. Et vous allez voir, en les regardant un à un, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de dommages. Ici, rendu à ce jugement-là, il y a plus de la moitié de la terre qui est mort. Plus de la moitié des humains sur la terre vont être morts rendus ici. Rendu au jugement qu'on va lire. On voit le royaume et ça se regroupe beaucoup avec les quatre premiers qui, comme chacun des autres jugements, il y a un regroupement des quatre premiers qui touchent beaucoup les éléments de la nature, soleil, les eaux, ces choses qu'on a de besoin, la lune, les astres, la végétation. Et la troisième partie, il y a vraiment plus une attaque plus directe sur l'être humain, le système, celui qui contrôle le royaume de la bête, une guerre et perturbation de la nature, mais d'un autre, différent un peu de la première partie. Et donc, on regroupe un peu les quatre premières et les trois dernières, un peu comme on le retrouve dans les autres jugements. Et là, vous avez une comparaison. On regarde ceux-ci présentement, le chapitre 16. Mais regardez, c'est pas une répétition des autres jugements. Il y a une différence. C'est pas les mêmes domaines qui sont jugés. Et il y a une intensification pour créer une intensification de pression sur l'être humain de son choix. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, le Seigneur, au chapitre 14, nous annonce à grande voix, à répétition par des anges, des grandes nouvelles qui s'en viennent pour nous mettre sous la pression. « Hey, il y a des grosses nouvelles, ça demande des décisions. » Si tu te fais crier après une information importante, ça appelle à de l'attention, et cette attention m'invite à une décision. Et pas prendre de décision, c'est aussi une décision. Et donc, le monde est confronté à cela. Et donc, on va lire ces quelques versets, la première moitié de notre section, chapitre 15, verset 1. Et je vous lis à partir de la version Tob, pour ceux qui cherchent quelle version que j'utilise, là. « Et je vis dans le ciel un autre signe, et un grand signe et merveilleux. Sept anges tenaient sept fléaux, ou même, on pourrait traduire, sept plaies, littéralement comme les plaies d'Égypte. Vous allez voir beaucoup de parallèles avec les plaies d'Égypte. Les dernières, car en eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu. » Donc, une idée de cette population mondiale et en même temps le feu, ici symbole évidemment de jugement, debout sur la mer cristal. Les vainqueurs de la bête. Donc, il y avait la bête qui tue du monde, qui crée des martyrs, qui persécute les croyants, juifs et païens. Et là, on dit qu'ils sont les vainqueurs de la bête. Et donc, c'est eux les gagnants, même si la bête, pour l'instant, semblait avoir gagné. Et de son image et du chiffre de son nom qu'on a vu au chapitre 13, tenant les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse. C'est intéressant, les plaies ressemblent à celles de Moïse et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Il y a un lien direct entre ce que Moïse a vécu avec le peuple d'une rédemption, de pouvoir passer par-dessus le jugement du peuple et d'avoir frappé les Égyptiens, que ce que Dieu fait aussi pour nous, de passer par-dessus le jugement qu'on mérite nous aussi et de frapper plutôt son Fils à notre place. Et il chante ceci. Et vous allez reconnaître les chants, les paroles d'un chant qu'on chante. « Grande et admirable sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Juste et véritable sont tes voies, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car toi seul es saint. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Car tes jugements se sont manifestés. Ensuite je vis le temple qui abritait le tabernacle du témoignage s'ouvrit au ciel. Et sept anges qui tenaient les sept fléaux ou sept plaies sortirent du temple. Donc on est dans une scène céleste ici et ces fléaux vont être sortis, mais ils vont frapper la terre, les humains. Mais c'est dans les cieux qu'elle est proclamée que se fait la scène actuelle. Ils étaient vêtus d'un lin pur, resplendissant, la taille serrée de ceintures d'or. L'un des quatre animaux donna aux sept anges sept coupes d'or. Et cette sept coupes d'or étaient remplies de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Ça fait déjà deux fois qu'on parle de la colère de Dieu. On va en parler aussi après ça. Et le temple fut rempli de fumée. Pourquoi? À cause de la gloire, de la puissance de Dieu. Et là, on se rappelle les scènes quand que la gloire de Dieu est entrée dans le tabernacle pour la première fois dans Exode 40, ou quand la gloire de Dieu est rentrée dans le temple sous Salomon, dans le livre des rois, et qu'il y avait la gloire de Dieu. Et pour nous, peut-être, la gloire de Dieu, avant de continuer la lecture, c'est quelque chose d'un peu abstrait. C'est quoi ça, la gloire de Dieu? À quoi ça ressemble, la gloire de Dieu? Pourquoi, quand je vois, on me dit la gloire de Dieu, qui peut-être pour moi est abstrait, je devrais faire comme « oh ». Pensez à la gloire d'une grande reine. On est dans ce contexte-là, n'est-ce pas? La belle dame qu'on voit dessus nos pièces de monnaie depuis 70 ans vient de s'éteindre, notre reine. Et si vous rencontreriez la reine, vous savez, la reine, par sa prestance, par son rôle, ne vient jamais seule. Elle vient d'une grande voiture, peut-être même avec les vitres blindées. Il y a des gardes de corps, il y a des gens très bien mis. Hein? Ce n'est pas des ticounes à côté, là. Hein? C'est des gens qui sont payés, des professionnels, des gens bien habillés. Et quand on voit aussi Sa Majesté la Reine dans une cérémonie, il y avait un habillement très spécial qui évoque son rôle spécial et qui lance un signal très clair au public. Ce n'est pas n'importe qui est ici. Il y a tout un déploiement autour de la royauté par les richesses, le linge, ce qu'il y a autour. Et il n'y a rien qui est fait petit et simple. Tout est majestueux et grand, n'est-ce pas? Les cérémonies. Et on va voir certainement ce genre de cérémonie avec le nouveau roi qui va vivre son couronnement officiellement, éventuellement. C'est grand. Puis c'était la reine Élisabeth, la première qui était exposée à la télévision lorsqu'il y a eu son couronnement. C'était quelque chose. Toute qu'une gloire autour de cette reine. Et le mot dans l'Ancien Testament pour gloire, peut-être peut nous aider à comprendre cette idée-là. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu avais un troupeau qui était, et un homme qui était très riche, on parlait de ses richesses comme étant très lourdes de troupeau. Il y avait un troupeau très lourd, très pesant. Et si quelqu'un était riche, on décrivait sa richesse en termes de poids, de pesanteur, de lourdeur. Et le mot qui est à la base du mot glorifier, gloire, c'est le mot pesant. C'est ce même verbe dans l'Ancien Testament pour parler d'une lourdeur, d'un poids. Et donc, l'idée ici, c'est que lorsque je suis devant Dieu et sa gloire, je suis devant le poids de sa grandeur, le déploiement d'une richesse incroyable qui porte celui qui voit tout ça, à faire comme « wow, C'est comme, c'est lourd de sens, c'est lourd d'intimidation, c'est lourd de richesse, c'est lourd de pouvoir, c'est lourd tellement que tu veux comme, okay, tomber à genoux. Vous voyez l'idée? La gloire de Dieu est tellement lourde qu'elle invite à tomber à genoux devant la grandeur et la petitesse que je suis. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle de son déploiement de puissance, de grandeur, de royauté, de majesté et tout ce qui vient autour qui impose le respect et à l'audience de tomber à genoux, soumis devant cette grandeur-là. Et même devant la reine, aucun d'entre nous se permettrait de dire « Hey yo, comment ça va Alice? » Y'a-t-il quelqu'un qui va faire ça? « Hey mon ami! » Hey, je vous présente ma pote Elise. Il n'y aurait pas de petits mots familiers. Il n'y aurait pas de petit côtoiement bien normal. Il n'y aurait pas de banalisation, de vulgarisation, d'amitié. Il n'y aurait pas de déploiement de banalité comme ça, là. Personne ne penserait faire une chose comme ça. Pourquoi? Ben, c'est Sa Majesté la Reine. 70 ans de couronnement. C'est la stabilité, c'est ce qu'elle représente, c'est la richesse, c'est comment qu'elle impose le respect juste par sa présence et sa stature. Et maintenant, imaginez et transposez ça, vous voyez? J'essaie de vous aider à imaginer tout ça pour comprendre l'idée de très abstrait pour nous de la gloire de Dieu. J'espère que cette description-là vous aide un peu à saisir ce qu'on est en train de dire ici par la gloire de Dieu qui impose la crainte et la soumission totale. Je continue. Mais il me semblait ici que je ne pouvais pas passer sous silence l'importance ici de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple à cause de ça. Sa gloire prend tellement de place, elle est tellement lourde que personne ne peut entrer, même ceux qui étaient accordés la place dans les cieux. Jusqu'à l'accomplissement des sept fléaux et par les sept anges. Et là, je lis les trois premiers. J'entendis une grande voix encore ici qui annonce ce qui s'en vient, qui du temple disait aux sept anges, « Allez, répandez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Troisième fois que c'est mentionné. Et la première partit et répandit sa coupe sur la terre et un ulcère malin et pernicieux, douloureux en quelque sorte, frappa les humains, les hommes, et les humains en réalité qui portaient la marque de la bête. Alors, tout à coup ici, le premier jugement est très ciblé et sélectif, un peu comme dans les plaies d'Égypte, n'est-ce pas? Où il y avait des plaies qui frappaient que les Égyptiens, ciblés pour leur arrogance de refuser d'obéir à ce que Dieu avait dit de libérer son peuple. Il dit « Ah ouais, tu veux t'en prendre à mon peuple? Attends un petit peu, tu vas payer pour ça, je t'ai averti, là. J'ai donné des chances. » Boum! Ceux qui font le mauvais choix sont frappés. Ici, c'est sélectif, ce jugement. C'est important de le souligner. Ce n'est pas tout le temps qu'ils étaient sélectifs et qui adoraient son image. Ils vont payer pour maintenant. Le deuxième répandit sa coupe sur la mer et elle devint comme le sang d'un mort. Et tout ce qui, dans la mer, avait souffle de vie, mourut. Donc, ce n'est pas juste les humains, c'est toute la création, les animaux, l'eau, ce qu'on a de besoin. La troisième répandit sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Dans les trompettes, il y avait eu un jugement comme ça au chapitre 8, mais c'est le tiers des eaux de la mer, le tiers des... Là, ici, c'est tout. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es, qui étais, le saint, car tu as... ainsi exercer ta justice. Puisqu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, c'est également du sang que tu leur as donné à boire. Ils le méritent, ou ils en sont dignes, littéralement. Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont pleins de vérité et de justice. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prions ensemble. Seigneur, c'est ta parole qu'on lit à l'instant et on te prie, Seigneur, de nous parler à travers cette multitude de jugements qui ne sont pas le fun à lire, Seigneur, mais tu les as mis là pour nous parler, nous instruire sur toi, Seigneur, pour nous préparer, nous équiper, pour avertir l'humain de ce qui s'en vient. Tu ne caches pas tes plans à tout humain sur terre, Seigneur. Quelle expression d'amour et de grâce que tu nous accordes, Seigneur. Parle-nous ce matin, instruis-nous sur toi. Et parle à nos cœurs d'une manière personnelle, encore une fois, comme seulement notre papa peut le faire en nous parlant individuellement. Fais-le, s'il vous plaît. Nous te le demandons par ton esprit de travailler dans nos cœurs. Et nous te le demandons cela dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, ce matin, on a beaucoup de matériel à passer à travers. Je ne m'accrocherai pas à tous les détails, ce n'est pas mon intention. Ceux qui veulent avoir des notes à lire plus complètes, vous pourrez le faire, mais c'est essentiellement ce qu'on voit ici. Cette scène céleste, les quatre premiers jugements qui touchent les éléments de la création principalement, et les trois derniers qui touchent le système et l'homme de l'heure à cette époque-là, la bête, l'antichrist qui est appelé le dragon, et son prophète. Également. Donc, une sorte de trinité du mal qu'on va mentionner un peu plus loin. Et dans cette scène céleste, ce qui est bon à remarquer, c'est qu'avant même que commence le jugement, comme chacun des autres jugements, lorsqu'on a les trompettes, lorsqu'on a aussi les sceaux qui sont brisés, il y a une scène dans les cieux, juste avant, une sorte de préambule préparatoire qui nous fait voir une perspective divine de la chose, qui nous donne une perspective derrière les rideaux au ciel du Dieu qui fait le jugement. Et pour comprendre et accepter et vivre en paix avec le jugement qui se passe sur terre, il faut regarder cette scène dans les cieux qui nous donne de la perspective pourquoi ça se passe. Qui le fait? Comment il le fait? Et on voit à chaque fois, dans ce préambule avant les jugements, une attention portée vers les croyants. Une attention portée vers ceux qui sont les vainqueurs, qui ont persévérer dans les difficultés, à chaque fois. Et donc, on va voir les vainqueurs qui sont mentionnés ici. Dans le chapitre 8, le préambule, c'était les saints, les prières des saints qui étaient entendues, qui étaient la cause aussi, en quelque sorte. Les jugements tombaient sur terre. Pourquoi? Pour juger ceux qui avaient fait martyr ces gens-là. Il dit, ces prières sont entendues, et là, le Seigneur est en train de juger la terre. Pourquoi? Parce que la prière de ces saints est entendue devant l'injustice qu'ils vivent pour son nom. C'était le fruit des prières. Ou encore aussi, avant le jugement des sceaux, le cantique qui est chanté, donc le jugement est fondé sur quoi? Sur les attributs de Dieu qui sont chantés, et à cause qu'il est toutes ces choses qu'on chante, c'est normal qu'il fasse tout ça. Et que le jugement est l'expression de ce qu'on chante de lui. S'il est saint, s'il est grand, tout puissant, s'il est parfaitement juste, et toutes ces qualités qui sont si majestueux, remplis de gloire, il ne peut pas tolérer ce mal, et c'est pour ça que le jugement tombe. C'est basé sur son caractère que se fait tout ça. Et donc, on voit le chant qui est mentionné dans ces versets. Je veux juste souligner, regardez bien le verset 3 et 4 rapidement, avant d'aller plus loin, mais remarquez les attributs qui sont donnés. On mentionne qu'il est tout puissant. C'était mentionné dans le chapitre 1, verset 8, au début du livre d'Apocalypse. Ensuite, on parle de son attribut d'être juste et vrai, vérité, véritable. Et que toute la pertinence, cette qualité-là autour du sang, on va parler dans un instant, et le jugement. Il est roi. Peut-être les gens, il y a des rois sur la terre qui se liguent contre Dieu, mais c'est lui le roi des rois, qu'ils ne reconnaissent ou pas. Ça ne change rien au niveau de son statut. Et là, pourquoi il est en train de revenir et dominer la terre? Mais c'est parce que c'est lui, le roi. Les autres, c'est juste des rois ticounes. Lui, c'est le roi des rois. Donc, il revient remettre la mainmise sur son royaume. Ça lui appartient, c'est lui qui a créé tout. Alors, à cause de son statut de roi, c'est normal qu'il vienne en vainqueur écraser ceux qui sont contre lui, n'est-ce pas? Et c'est en fonction de ces attributs-là que vient le jugement de Dieu. Il est saint. Et c'est pourquoi les hommes devraient craindre et le glorifier, parce qu'il est parfait. Il sera adoré par les nations également, on dit. Encore une référence à l'époque qui s'en vient des 1000 ans, où ce qu'il va régner sur terre. C'est lui dont la colère est sur le point de se déverser à travers chacun de ses fléaux, expression justement de sa personne. Et donc le chant. Et là, on voit la préparation où ce qu'il donne les ordres, où ce que ces hommes avec, c'est pas ces hommes, ces anges encore qui sont choisis pour être les émissaires à apporter les jugements sont utilisés. On voit là le déploiement de sa gloire. On voit le déploiement de ces gens qui sont envoyés vraiment d'une royauté incroyable. Ils sont envoyés comme émissaires pour exécuter ce que le roi a dit. Et donc, on a tout ce préambule qui prépare ça. Maintenant, on a les quatre coupes, et la première parle d'ulcère physique que les humains vont vivre. Et remarquez bien que là, tout à coup, dans les versets qu'on lit ici, on parle sur terre. Sur terre. sur terre, sur la mer. On parle de choses terrestres, alors que dans la scène préambule, les versets 1 à 8 du chapitre 15, c'est une scène céleste, rappelez-vous, qui m'aide à comprendre pourquoi ça se passe comme ça sur terre et que c'est juste tout cela. Et donc, les ulcères humaines qui apportent chacun à souffrir beaucoup et qui vont malgré tout, plutôt que se repentir, maudire Dieu un peu plus tard. On a la mer et toutes les eaux nécessaires à boire, les eaux dans lesquelles vivent une grande partie de la création incroyable, dont nous-mêmes, on n'a pas vu la moitié de celle-ci, a vu les grandes profondeurs de la mer et la grandeur de la mer. Et ceux-ci vont être jugés aussi. Devient du sang. Et là, on se dit, mais pourquoi le sang? Il prend le temps de l'expliquer. Que la raison pourquoi on mentionne quatre fois le sang ici, c'est parce que ces gens-là, la terre a fait couler le sang des enfants de Dieu. Et parce qu'elle a fait couler le sang des enfants de Dieu, Dieu est juste et lui retourne le sang à boire dans son eau. L'ironie du sort, ou tout simplement le lien de causalité ici qui est expliqué, Dieu ne fait pas les jugements par hasard demain. Ce qu'il fait est réfléchi. Il y a une causalité. Et donc, le sang ici est utilisé pour juger. Et alors qu'on parle ici du jugement de Dieu et de la causalité d'un lien juste ici, trois fois dans les versets qu'on vient de lire jusqu'à présent, on mentionne que Dieu est juste. Vous avez remarqué? Trois fois, Dieu est dit être juste. Il apparaît seulement deux autres fois un peu plus loin dans le livre. Trois fois sur les cinq dans l'Apocalypse sont regroupés dans ces quelques versets du préambule et des premiers quelques jugements des coupes. La justice de Dieu. Et je m'arrête un instant au milieu de cet enseignement ce matin pour m'arrêter sur cette notion de la justice de Dieu avec vous. Cette thématique unifie toute la section qu'on est en train de lire présentement. Cette vérité est de la plus haute importance et elle est extrêmement pratique dans notre vie de tous les jours. Sa justice est indéfectible et la justice de Dieu, elle est éternelle. Mais nous avons des doutes sur sa justice quand nous regardons autour de nous, n'est-ce pas? Et partout autour de nous, on chiale contre Dieu en disant, « Ben, si il est juste, comment ça? » Super original. Ça s'est jamais dit il y a 100 ans. Ça s'est jamais dit il y a 1000 ans. Ça s'est jamais dit il y a 2000 ans non plus, ce genre de niaiserie-là. Mais, « Oh, regarde autour, c'est injuste. » Est-ce que c'est la faute de Dieu, tout ce qu'il y a autour? Mais on va attribuer à Dieu tout cela pour s'attaquer à lui. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On diminue aussi, on met un doute dans l'esprit de tout le monde que Dieu est juste, qu'il est un Père céleste attentionné. Et c'est ce que le mal veut faire. Il veut toujours dénigrer les attributs du Père céleste et qu'on regarde notre Père céleste aux yeux de notre propre Père sur terre, imparfait. Et qu'on doute qu'il est vraiment fiable et juste. Qui est vraiment sensible à ce que je vis. Puis que lui aussi, il est choqué des injustices. Puis qu'il n'est pas indifférent. Et qu'il fait quelque chose. Notre vision est limitée et trop souvent distorsionnée par ses doutes. Voilà ce qui porte à prier Dieu davantage, si on croit qu'il est juste, ou pas, si on doute de sa justice. Car lui est un juste juge, et entend toujours ma cause. Il connaît parfaitement les détails de ma situation, bien plus que moi encore, parce que c'est beaucoup plus complexe que je peux le penser souvent. Donc, il mérite ma confiance pour chaque cause. Si seulement nous pouvions vraiment accepter et croire au quotidien que Dieu est parfaitement juste, cela changerait tellement de choses dans notre quotidien. Quand je me sens attaqué par les propos d'un autre, dans mon couple, dans ma famille, quand je vis une injustice au travail, un poste attribué par préférence, je sais que ça arrive pas souvent, mais au cas où, hein? Quand je vois une injustice qui me crée de la colère à l'intérieur, un peuple qui persécute un autre peuple, quand je regarde des gens qui regardent mes motifs profonds, ou quand je regarde mes motifs profonds devant mes colères et que je regarde mes injustices et que je ne reçois pas tout ce que je mérite, tout à coup, j'ai une réflexion à faire devant sa grandeur. Merci Dieu d'être juste, car il est rempli de compassion pour nous. N'en doutez pas, Un Christ dépourvu de compassion n'aurait jamais pu se mettre en colère contre l'injustice. S'il y a de la justice en Dieu, c'est parce qu'il y a de la compassion dans notre Dieu qui ne tolère pas l'injustice et qui a pitié de ceux qui vivent l'injustice, contre la dureté, la barbarie même et celle même de l'élite religieuse. Et vous avez toutes ces situations dans vos vies où ce que la justice de Dieu a un impact direct sur le fait qu'on prie Dieu ou qu'on ne le prie pas pour cette situation-là, en ayant des doutes qu'il va vraiment faire quelque chose. Je vous lis ici ce que le pasteur Ortland a mis dans son livre, et vous l'avez lu. Je vous cite un passage qui se trouve dans la page 116, qui parle de justice. Il dit, « Mes frères, même si Dieu est juste, on peut dire que sa miséricorde lui est certainement, et a certainement égard, et, excusez-moi, sa miséricorde lui est à certains égards plus naturelle que tous les actes de justice qu'il accomplit. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je parle ici d'une justice vengeresse, voyez? Nous, on est portés vers des justices vengeresses. Dieu, lui, n'est pas porté de cette façon-là, puisque Dieu est parfaitement juste et n'agit pas juste par pure vengeance comme nous on le ferait, même s'il y a une vengeance légitime qu'on voit en Dieu et dans les Écritures. Ces actes de justice manifestent un attribut divin, et en ce sens qu'il rend au pécheur la monnaie de sa pièce. C'est juste normal. En agissant ici, il se fait néanmoins violence, pour ainsi dire, selon les Écritures. Il y a dans cette justice quelque chose qui est contraire à lui. Pourquoi? Parce que Ézéchiel nous dit, chapitre 18, « Je ne souhaite pas la mort du pécheur. » C'est pas ça dans le quoi Dieu prend plaisir punir. C'est pas là ce qu'il aime faire. C'est pas son activité préférée. Du tout. C'est-à-dire que je ne m'en réjouis pas pour le simple plaisir de faire la justice. Lorsqu'il accomplit ses actes de justice, ce n'est pas dans le but de juger seulement, mais c'est aussi afin d'en arriver à des fins nobles. Quelque chose en lui s'oppose au jugement et pourtant, à cause de sa compassion, il doit interagir et juger l'injustice. Et je pense que c'est bon pour nous de se rappeler. Dans sa justice, Dieu est exigeant, mais exhaustif. Et dans sa miséricorde, Dieu est généreux, mais exhaustif aussi dans sa générosité. Total, complet. Et je m'arrête là, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais avancer dans notre texte et regarder ces prochains jugements. Donc, on l'a vu les trois premiers. Regardons ce quatrième ici, là, où le soleil brûle d'une chaleur extrêmement accablante sur les gens. Elle est brûlée littéralement, on dit. Littéralement, et le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Le soleil qui était mentionné justement dans les jugements du chapitre 6 et chapitre 8. Il fut donné de brûler les humains. Et remarquez ici, encore une fois, l'humain, c'est générique. C'est pas les hommes, c'est les humains. 6 fois, il est en train de dire les humains sont la cible ici, comme le chapitre 8, de l'action de Dieu sur eux, par le feu. Ils furent brûlés, les humains, d'une grande brûlure. Et qu'est-ce qu'ils font? Il blasphémère, il continue à blâmer Dieu et se placer comme des victimes d'un Dieu méchant. Le nom de Dieu, celui ayant le pouvoir sur ses plaies. Et ils ne se repentirent pas de lui donner, pour lui donner gloire. Et là, on voit ici la raison d'être de l'être humain. Se repentir, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il y a sur son cœur. Il tend la main, et s'il en parle ici, en voyant pas comment il répond, c'est parce que ça manifeste de l'autre côté que Dieu faisait ça dans le but qu'il se repente. On voit ici la bonté de Dieu qui invite à la repentance, et en même temps que le but de la repentance, c'est d'amener toute personne à glorifier Dieu, à lui donner l'honneur, à faire parler de cette royauté et de montrer tout le respect qu'il mérite et d'en parler aux autres, de faire partie de tout ce groupe de gens qui sont autour de la royauté, qui la font paraître comme elle est. C'est ça, rendre gloire à Dieu. Et c'est ça le but de l'être humain. Mais ça passe par la repentance pour y arriver. Et Dieu ici montre que ce qu'il a dans le cœur, c'est de voir l'être humain changer de direction et abandonner ses œuvres. Et donc, ce cinquième jugement frappe fort et on voit qu'il persiste à manquer de respect au roi du ciel. Regardez bien ensuite la cinquième coupe, excusez-moi, versets 10 et 11, je vous lis ça, vous pouvez regarder dans votre Bible. La cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête. Là, maintenant, on transite, on s'attaque plus précisément au système et celui qui est la grosse vedette de l'heure au milieu de la tribulation. Son royaume en fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Et qu'est-ce qu'ils font encore une fois? Ils blasphèment. Ils continuent de maudire Dieu, de le blâmer, de se placer en victime plutôt que de se repentir. Vous savez, aussitôt que l'être humain tombe dans la victimisation, pauvre de moi, il régresse et tombe. Parce que quand que je suis une victime, je n'ai pas besoin de regarder ce que je fais de mal. Je peux regarder ce que les autres font de mal. Et pourquoi moi, pauvre de moi? Ce qu'on appelle du nombrilisme au Québec. Hein? Pauvre de moi. On me fait ça, puis on ne voit pas mes qualités. Puis tu sais, je ne reçois jamais. Et les autres, ils ont tous des beaux voyages, moi, je n'ai jamais de voyage. Puis les autres, tu sais, puis les autres, puis tout ça pour ramener sur là que moi, je n'ai pas ça. Et les êtres humains font exactement ça. Il y a des malheurs, plutôt de voir pourquoi, plutôt que de répondre, de se repentir. Pauvre de moi, il y a un Dieu méchant, il ne nous aime pas dans le fond. Et là, ils vont s'attaquer à Dieu, blasphémer contre lui et le blâmer pour le mal plutôt que de prendre responsabilité des conséquences qu'il leur a infligées par mon choix humain. Mais c'est plus facile d'être dans la chaise de la victime. Mais on n'avance pas dans la chaise de la victime. On régresse, on justifie ma colère, on justifie mon inaction, on n'avance pas. Ne restez pas dans une chaise qui s'appelle la victimisation. Vous ne pourrez pas être libéré. Et peut-être vous êtes une victime réelle d'une situation. N'y restez pas. Parce que vous savez, à la fin de la journée, vous et moi, là, tout humain sur terre, on est pécheur. Et tout ce qui est en bas que de mourir est une grâce. On mérite la mort. C'est ça qu'on mérite. Dieu juste dit, je vais te laisser mourir tranquillement, je te donne une vie à vivre, mais tu vas mourir certainement. Et tout être humain mourit. Mourir, tu mourras. C'est comme ça que c'est écrit. Mourir, tu mourras. C'est-à-dire, tu es certain que tu vas mourir. Mais peut-être ça va prendre plus de temps que tu penses. Mais pendant ce temps-là, tu as l'occasion de te repentir. Mais tu vas mourir. Toute forme de punition moindre que de mourir est une grâce de Dieu, vous savez. Et toute forme de temps de vie que Dieu nous accorde est une grâce pour répondre oui à son appel, pour répondre oui à son invitation. Aujourd'hui est un jour de grâce où Dieu nous invite encore une fois à entendre sa parole et à répondre oui à son invitation et à arrêter de reporter à demain. Et je termine le verset qui dit « Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs souffrances et de leurs ulcères, mais ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Ils voulaient continuer à avoir leur style de vie, leur immoralité qui est soulignée plusieurs fois, leur objet d'adoration, leur cupidité, les avoirs, le plaisir, il en nomme plusieurs qui sont nommés dans l'Apocalypse. Et je continue. Sixième coupe. Et là, on arrive vers une autre section. L'assèchement des eaux de l'Euphrate, particulier ici, on dit, la sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate. Vous connaissez l'Euphrate, certainement, ce grand fleuve qui vient couper au milieu de l'Irak. L'eau en fut asséchée pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Il semble qu'il va y avoir une grande coalition de rois qui va venir de l'Est. Donc, de la direction de l'Iran, de l'Inde, de la Chine, un grand groupe de rois vont venir ici pour traverser ce grand fleuve qui est asséché par le jugement de Dieu, qui facilite ce chemin pour une ultime bataille qui s'en vient. C'est particulier. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit ici. Et là, on dit, alors, de la bouche du dragon, la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, je vis sortir trois esprits impurs, tels des grenouilles. Il y a une sorte de trinité du mal ici. Ce sont en effet des esprits de démons, ces grenouilles-là, finalement. Et on ne dit pas que c'est comme des grenouilles. Il semble que c'est des grenouilles réellement, mais démoniaques, quelconques. C'est difficile à comprendre. Et ils accomplissent des prodiges et s'en vont trouver les rois du monde entier. Donc, si on parle ici de faire des prodiges, c'est qu'ils vont faire des choses qui vont séduire ces rois à faire ce plan-là de venir en coalition contre Dieu. Tout ça est orchestré et permis par Dieu pour amener une ultime bataille, pour amener un ultime jugement et justice sur terre. Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Tout ça ici les prépare à venir faire cette grande bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon. On voit ici, et voici, je viens au verset 15, comme un voleur, heureux ceux qui veillent et gardent ses vêtements pour ne pas aller nus ou laisser voir sa honte. Une expression aussi pour parler de prendre soin de sa vie spirituelle, d'être dans la sainteté, de ne pas tomber dans le péché, un langage qu'on retrouve dans les sept églises de l'Apocalypse au chapitre 2 et 3. Vous pouvez retourner particulièrement dans le langage de l'église de Sardes au début du chapitre 3. Vous allez retrouver ces mêmes parallèles. Et ils se rassemblèrent au lieu qu'on appelle en hébreu Armageddon. Donc, il y a une parenthèse qui est faite ici dans cet assèchement des eaux. On explique pourquoi il y a un assèchement des eaux. C'est pour qu'un gros groupe de gens qui s'en viennent vers Israël pour attaquer dans cet endroit qu'on appelle Armageddon, c'est-à-dire la montagne de Megiddo. C'est où ça? C'est quoi ça? Donc, on lit exactement cela et j'ai lu l'avertissement. Je vais sauter par-dessus. Et là, vous avez ici, j'étais dans cette vallée-là, j'ai mis des photos. Il y a juste celle-là qui n'est pas la mienne. Mais vous êtes ici sur ce qu'on appelle Tel Megiddo. L'ancienne montagne qui a été coupée et qu'on a fait une ville fortifiée qui était dessus, où il y avait beaucoup, entre autres l'armée de Salomon qui était bien installée. J'ai eu l'occasion de visiter en haut là. On retrouve des mangeoires et tout, un équipement pour les chevaux d'il y a 3000 ans. Il y avait toute une grosse armée qui était là. Mais ce qui est important, c'est que Tel Megiddo se trouve dans le bas de cette grande vallée qu'on appelle la vallée de Jisréel, où ce que se trouve justement Armageddon. La bataille de la fin des temps. L'expression Armageddon, la bataille d'Armageddon, apparaît pas. On voit ici le nom de l'endroit et on parle d'une grande bataille, d'où l'expression la bataille d'Armageddon, dans cette grande vallée qui est immense. Ici, vous êtes dans la partie sud et vers la gauche, vous allez voir Nazareth sur une autre photo que j'ai mise. Alors, c'était moi sur le mont Tabor. Et lorsqu'on est sur le mont Tabor, en regardant vers le sud, on voit évidemment le petit montagne que vous avez vu est en bas ici, mais on voit Nazareth, on voit à côté ici Cana, en venant vers le mont Tabor où ce que Jésus a eu la transfiguration. Et quand vous regardez, vous voyez cette grande vallée, et vous tournez un peu à gauche, vous voyez cette grande vallée qui, à ce jour-là, on ne pouvait pas voir bien comme il faut, mais qu'on peut voir littéralement 20-30 kilomètres en avant de nous. Une vallée qui fait environ 22 kilomètres par 35 kilomètres. C'est immense. Et lorsque on est ici en haut, on voit une grande partie jusqu'au mont Morée, qui est au milieu de cette grande vallée. Donc, une partie de site, puis l'autre moitié de l'autre côté de la montagne. Je vous montre juste une partie par ces photos-là, tellement que c'est grand et vaste, cet endroit qu'on appelle la vallée d'Armageddon, mais qui est en réalité la vallée de Jisréel. Et vous voyez ici une photo à partir de Tel Megiddo. Si vous regardez vers le nord, ah ben là, on ne le voit pas bien sur ça, mais il y a le mont Morée ici, puis le mont Tabor qui est là, encore juste cette première moitié. C'est immense et c'est une des deux vues en Israël, lorsqu'on est placé sur une montagne élevée, des plus frappantes, outre celle d'être au-dessus de Jérusalem et de voir Jérusalem, la vieille ville, du haut des deux endroits qu'on peut les voir à côté. Une grande vallée, où il va y avoir un grand combat. Et où il y a eu de grands combats historiques, puisque c'est un endroit naturel pour ce genre de combat. Je vous lis ici les paroles d'un auteur qui dit, on parle souvent de la bataille d'Armageddon, mais nulle part dans la Bible, on utilise cette phrase. On parle d'une bataille et on parle de Megiddo, de la montagne de Megiddo. Le 2 septembre 1945, on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand le général MacArthur, un homme très important, et supervisait la signature du traité de paix au Japon, avec le Japon, il dit, « Nous avons eu notre dernière chance. Si nous ne nous convenons, excusez-moi, ne concevons pas quelque chose de plus grand et de plus équitable que d'utiliser la guerre pour arriver à nos fins, Armageddon sera à notre porte. » Il avertissait du danger de cette ultime guerre qui viendrait à la fin, lui-même conscient de ça en 1945, après avoir passé la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans cette plaine que Barak, par exemple, dans le livre des Juges avec Déborah, on défait l'armée cananéenne dans Juges chapitre 5. Gédéon a également battu les Madianites dans cette même vallée. C'est là aussi que le roi Saül, dans cette même vallée, mais plus vers l'autre côté de la montagne, est mort également. Titus, au début de notre ère, et l'armée romaine utilisèrent ce corridor naturel, comme le firent aussi les croisés il y a 1000 ans. du Moyen Âge. Et même le général Allenby, duquel il y a un nom aujourd'hui qui traverse le Jourdain, ce général anglais en 1917, a utilisé ce même route aussi pour gagner contre les Ottomans en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Un endroit hautement historique, un endroit idéal pour la guerre et dont il y a beaucoup de commentaires qu'on pourrait dire là-dessus, mais qui, dans le futur, non seulement dans le passé, il y aura une grande guerre là et dont l'assèchement de l'Euphrate va permettre à des armées pour venir attaquer en terre promise. Ce n'est pas nous qui le fabulons, c'est répété ici. Et déjà, on avait une introduction dans les derniers versets du chapitre 14 qui nous annonçait que ça s'en venait. Là, ici, on voit l'accomplissement sur terre de cela. Et on va voir le détail un peu plus de ces batailles-là dans les trois chapitres qui vont suivre. Je pourrais en parler longtemps, mais j'aimerais m'arrêter ici. On mentionne entre autres le jugement aussi sur Jérusalem dans les derniers versets, parce que évidemment la bête va s'installer avec son image à Jérusalem. Il va y avoir des adorateurs de toutes les nations et des Juifs. Et donc la ville aussi qu'on parle au verset 17, on va lire d'un instant, est aussi Jérusalem va être affectée dans tout cela. On lit les derniers versets ensemble. On est rendu ici à l'annonce de la destruction de Babylone et on va tenter d'atterrir immédiatement après la lecture de ces versets. La septième répandit sa coupe dans les airs et du temple sortit encore une grande voix venant du trône et dit, c'en est fait, ça y est, c'est arrivé. Alors, ce furent des éclairs, des voix et des tonnerres, et un tremblement de terre si violent qu'il n'en a jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. Imaginez. La grande cité, en parlant de Jérusalem ici, se brisant en trois parties, et les cités des nations s'écroulèrent. Alors, Dieu se souvint de Babylone la grande. Et notez ça ici, Dieu se souvient. On a ici une action qui montre Dieu n'oublie pas les injustices. Dieu n'oublie pas qui a choisi lui puis qui l'a rejeté. Dieu se souvient. Comme aussi, après un an sur l'arche de Noé, on lit au chapitre 8, verset 1 de la Genèse, Dieu se souvient. Ce n'est pas qu'il l'avait oublié. C'est une expression pour parler de Dieu qui recommence à agir activement envers celui à qui il a fait une promesse. Pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. Toutes les îles s'enfuirent des montagnes disparues. Des grêlons lourds comme des talents tombent du ciel sur les hommes, autour de 40 kilos, le grêlon. Et qu'est-ce que les humains font? Ils se repentent enfin. Et ils blasphémèrent contre Dieu à cause des plaies de la grêle, car ce fléau était particulièrement redoutable ou extrêmement grand, littéralement dans le grec, extrêmement grand. On va développer davantage au chapitre 17 et 18, où ce que le chapitre 17 et 18 décrit en détail, la destruction de ce système économique religieux mondial de la grande Babylone qui tombe. On va voir ça au chapitre 17 et 18 la semaine prochaine en détail, donc je ne m'y attarde pas trop, mais on attaque les lieux de gouvernance, de contrôle de la bête, du dragon, de l'Antichrist, pour en arriver au jugement final où le Seigneur Jésus arrive au chapitre 19. On s'en vient. Chapitre 19 s'en vient où Jésus va mettre les deux pieds sur terre et faire atterrir et être vainqueur dans cette grande bataille qui nous est avisée ici et dont il va y avoir des milliers de morts et le carnage ne sera pas épargné dans la Bible. Il semble que Dieu voit bon qu'on soit au sujet, connaissant et au courant et de lire le sérieux de la chose et le carnage qui entoure tout ça. Le Seigneur ne nous épargne pas en anglais, de gory details, les détails gory, je ne sais pas comment le dire, mais c'est pas juteux, là, mais macabre. Oh, c'est ça le bon mot, macabre. Il ne nous épargne pas des descriptions macabres où aboutit le péché. C'est là qu'il aboutit. Ça fait mal, c'est dégueu, c'est sanglant, ça fait mal. C'est bien des gens qui sont blessés, marqués, détruits, tués. Et il ne nous épargne pas dans l'Apocalypse de savoir pour montrer le sérieux de la chose. Je résume ici pour atterrir notre prédication ce matin. Nous avons vu que, premièrement, que Dieu est juste ce matin. Okay? Et c'est une source de réconfort pour nous si on le saisit, si on le croit réellement, pour confronter les injustices autour de nous qui sont constantes. Dieu est juste, les amis. Il mérite que je me confie en lui, que je lui présente mes besoins et que je lui fasse confiance. Il n'est pas indifférent. Si à l'apparence, tu as l'impression qu'il est différent, qu'il ne fait rien, il ne l'est pas. Tu ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses. Il y a tellement peu de choses qu'on voit. On ne sait pas ce qui se passe dans la conscience des gens, dans leur vie privée. Soyons patients. Notre Dieu est juste et il n'est pas indifférent. Disons-le ensemble, notre Dieu est juste et il n'est pas indifférent. On le redit encore une fois, notre Dieu est juste et il n'est pas indifférent. Et il faut se le répéter, cette vérité-là. Il faut se battre avec parce que notre humanité veut nous victimiser et nous dire qu'on a un Dieu négligent, pas impliqué. C'est ce qu'est-ce que les rois de la terre affronteront Dieu dans une grande bataille. Et Dieu nous avertit d'avance comment ne pas y participer et que tout ça est orchestré avec son consentement. Amen. Il n'y a pas de bataille sans son consentement. Dieu a un plan là-dedans. N'en soyons pas troublés. Nous ne sommes pas de ceux qui ne sont pas avertis, qui ne savent pas ce qui s'en vient. Quatrièmement, il y aura en dernier la destruction de cette grande Babylone, les détails qui sont à venir dans le chapitre suivant, fait que je ne m'attarde pas trop à cette septième coupe pour le moment. Résumé thématique, 11 fois on voit le mot « grand », on peut le résumer ainsi. Il y a les grandes œuvres de Dieu qui sont à la base du jugement. Une grande voix annonce le déversement de ces 7 coupes. Qu'est-ce qui se passe après? Les humains eurent une grande brûlure, l'assèchement du grand Euphrate, car il y a le grand jour de Dieu, de son jugement qui s'en vient. Puis encore, une grande voix survint, un grand séisme, le plus grand séisme qu'il y a jamais eu de l'histoire va arriver à ce moment-là. La grande ville, la grande Babylone est détruite. Et finalement, une grande grêle tombe sur les humains et ils blasphèment contre Dieu, car cette plaie est extrêmement grande et dure à vivre. Qu'est-ce qu'on retire ce matin? La 7e coupe, vous savez, nous rappelle la 7e plaie d'Égypte. Tout comme Pharaon et ses leaders égyptiens ne se repentirent point, ainsi les habitants de la terre en feront de même. La réaction, entêtement au point de blasphémer contre Dieu, la non-repentance. Que signifie blasphémer? C'est de parler outrageusement. C'est ça, blasphémer, là. Parler outrageusement, insulter, calomnier, même être injurié, insulter, rallier quelqu'un, rire de lui. Il n'est donc pas surprenant que la grêle vienne, puisque la loi, vous savez, prévoyait pour le blasphémateur la lapidation. Et qu'est-ce qui arrive? Des gros grêlons de 40 kilos qui tombent du ciel sur le blasphémateur. Ce n'est pas anodin, vous savez, comme le sang utilisé dans l'eau. Ce n'est pas anodin. Dieu, tout est réfléchi. Il y a une raison. Il est grave, vous savez, de rejeter Dieu et d'autant plus le blâmer, l'insulter pour ce qui se passe autour de nous, plutôt que de faire nos devoirs. C'est trop facile de blâmer Dieu et de se déresponsabiliser comme être humain. Malgré le mouvement des nations, des confédérations d'armées contre Dieu, il demeure en contrôle et sa parole va s'accomplir. Les martyrs de la tribulation chanteront des louanges à Dieu. Ne nous laissons pas intimider, on peut déjà chanter. Et c'est ces chants qui racontent les qualités de Dieu qui permettent que ces choses arrivent aussi. Il nous fait participer dedans. Il est possible d'être victorieux sur la bête et d'être un vainqueur. Finalement, toutes les générations de chrétiens sont identifiées avec les événements de l'Apocalypse depuis des siècles, vous savez. Il y a toujours eu une bête, un faux prophète à quelque part, pour opprimer et tenter d'égarer le peuple de Dieu. Rien d'original. La menace d'un Armageddon est jamais bien loin. Écoutez les paroles de Poutine dans la dernière semaine et de d'autres leaders qui sont proches de lui. Les menaces de l'Armageddon n'est pas très loin. D'une génération à l'autre, il y en a eu. Nous permettant aussi de rester sobres, ceux qui vivent prêts. Cependant, dans les derniers jours, il y aura une accélération de ces événements et leur accomplissement ultime. Je ne crois pas que l'Église va être présente dans la tribulation, dans l'Apocalypse, mais des croyants convertis pendant la tribulation, des peuples de toutes nations et des Juifs en grande quantité vont l'être et vont passer tout qu'un quart d'heure difficile. Soyons vigilants, nous dit le texte au verset 15, je relis ces versets-là. Il vient comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant. Vous savez, quand je l'ai dit la semaine passée, là, de rester pas comme un zombie en train de juste passer à travers la vie, atteint par toutes les choses difficiles et devenir cynique. Il dit non, restez sobre, vigilant, reste concentré. Reste là encore et garde tes vêtements afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir ta honte. Restons concentrés, abstenons-nous des distractions de ce monde et demeurons purs pour Dieu. Nous serons récompensés, les sacrifices en valent la peine et nous marcherons sans honte à côté de notre Dieu. J'ai invité notre leader de louange à s'approcher pour terminer dans la prière. Et je vous invite, si le Seigneur est en train de vous parler sur un domaine, sur une inquiétude que vous avez présentement, pourquoi pas juste dans notre temps de prière présentement, le donner au Seigneur. Cette injustice que vous vivez avec, cette décision reportée, cette fausse conception que vous luttez avec Dieu, dites, Seigneur, je te demande pardon ce matin, c'est vrai, je doute de toi. Je doute de ta justice, puis à cause de ça, je ne vais pas vers toi pour te demander ton aide. Je vais le confesser ce matin. Ce que le Seigneur met sur ton cœur ce matin, ne tarde pas, plaçons-le tout de suite devant lui dans la prière et prions ensemble. Seigneur, c'est devant toi qu'on veut se courber, toi qui mérites toute gloire, Seigneur, toi qui mérites qu'on fléchit le genou devant la gloire, Seigneur, de ta présence, la gloire de ton nom, la gloire de tes accomplissements. Si on est intimidé, Seigneur, devant une reine comme la reine Élisabeth, combien plus, Seigneur, devant le roi de toute la terre qui est parfait. Qui n'a pas les ressources sur un pays, qui ne gouverne pas sur une petite section du monde, mais qui a créé le monde, qui gouverne sur tout le monde, qui a le contrôle sur nos vies et qui a vu bon d'envoyer son Fils mourir à la croix pour nos péchés, pour nous permettre d'être avec lui même dans notre rébellion. C'est incroyable, Seigneur. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui refusent cette histoire parce que c'est invraisemblable. Quelle nation dans le monde a une histoire d'un Dieu qui aime tellement sa création, qui envoie son Fils mourir à leur place? Il n'y a pas d'histoire comme ça dans l'Antiquité, Seigneur, si ce n'est que l'histoire du Messie d'Israël, de Jésus-Christ. Quel privilège de connaître ce message, Seigneur, d'y croire et d'avoir l'espérance de la vie éternelle. On ne le mérite pas, Seigneur. Ce n'est que pure grâce qu'on ait un groupe de gens ici qui avons cru en toi, qui avons été bénéficiaires de ton pardon. Quel privilège, Seigneur. On veut chanter ce chant des rachetés, ce chant de Moïse, ce chant de l'agneau qui parle de ta grandeur. Et c'est à cause de qui tu es que nous pouvons être quelque chose dans ton royaume. Merci, Seigneur. Interagis avec nous ce matin, là où ce que tu veux parler à nos cœurs, là où il y a des luttes, là où il y a des mensonges à abandonner, Seigneur. Donne-nous la force de les reconnaître, la clairvoyance de discerner ces mensonges et de les confesser, de m'en repentir, Seigneur. Je veux croire qui tu es et non mes impressions faussées, non mes blessures paternelles, non ce que les gens disent autour. Seigneur, que je sois imbibé de ta parole qui me dit qui tu es et combien tu mérites toute ma confiance. Oh Seigneur, calme nos cœurs devant les menaces des rois de ce monde, des intimidateurs de ce monde, des usurpateurs qui oublient qu'il y a un roi auquel ils vont répondre un jour. Accorde-nous de ne pas être intimidés, de prier pour nos gouvernements, de parler du message de l'Évangile pour calmer le cœur de ceux qui nous entourent et qui ont besoin d'espoir et d'échanger leur anxiété pour ton repos. Seigneur, on veut faire ce transfert. Prends mon anxiété en échange pour ton repos, comme tu me l'as promis. Et on te le demande, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.